إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous avons commencé la semaine dernière le chapitre sur les règles des ablutions. Et nous avons vu à ce sujet les trois premières questions qui concernaient la définition des ablutions, le jugement des ablutions et les conditions des ablutions. Nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, les deux questions suivantes qui concernent les obligations des ablutions ainsi que leur sunan, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées durant les ablutions. Donc tout d'abord, ce que l'on appelle les obligations des ablutions désigne ici en réalité leurs piliers, c'est-à-dire que ce sont les choses qui font partie des ablutions et sans quoi les ablutions ne peuvent être valides. Et les piliers des ablutions sont au nombre de 6. Premièrement, se laver entièrement le visage, y compris le rinçage de la bouche et du nez. Deuxièmement, se laver les mains jusqu'au coude. Troisièmement, passer ses mains mouillées sur toute sa tête ainsi que sur ses oreilles. Quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Cinquièmement, faire cela dans l'ordre mentionné. Et sixièmement, faire cela sans interruption. Donc le premier pilier ou la première obligation est le fait de se laver entièrement le visage. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6 de Surat al-Ma'ida, dans lequel il a dit « Ya ayyuhalladina amanu » إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, c'est-à-dire lorsque vous voulez prier, lavez vos visages. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement ordonné dans ce verset le lavage du visage. Et entre dans cela le fait de se rincer la bouche et le nez. Car la bouche et le nez font partie du visage et il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les rinçait lors des ablutions. Et lorsqu'on parle du lavage du visage, il est nécessaire de savoir qu'est-ce qui est compris par le visage. La réponse est qu'en largeur, le visage est ce qui est compris entre les deux oreilles, c'est-à-dire d'une oreille à une autre. En largeur, ceci est le visage. Et en hauteur, le visage s'étend du sommet du front jusqu'au bas du menton. Donc toute cette surface doit être intégralement lavée lors des ablutions. Et ceci est précédé par le rinçage de la bouche et du nez. Le deuxième pilier ou la deuxième obligation est de se laver les mains jusqu'au coude. La preuve est la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. » Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc après le lavage du visage, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement ordonné le lavage des mains jusqu'au coude. Il est donc obligatoire, durant les ablutions, de se laver les mains jusqu'au coude. Et les mains doivent ici être lavées de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. En effet, il y a nombre de personnes qui, lors des ablutions, font cette erreur, qui est de ne laver que leurs avant-bras après le lavage du visage. Car comme on va le voir, lors de la question suivante, il fait partie des choses recommandées lors des ablutions de commencer par se laver trois fois les mains, c'est-à-dire les mains jusqu'aux poignets. Donc certaines personnes font ce lavage qui est recommandé, puis ensuite lavent leur visage et, pensant que le premier lavage des mains est suffisant, ne lavent que leurs avant-bras, c'est-à-dire du poignet jusqu'au coude. Et ceci est une erreur, car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ici de laver nos mains, c'est-à-dire de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Quant au premier lavage, comme on va le voir, il est seulement recommandé. Le troisième pilier ou la troisième obligation est de passer ses mains mouillées sur toute sa tête, ainsi que sur ses oreilles. La preuve à ce sujet est la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wamsahu bi ru'usikum » « Passez les mains mouillées sur vos têtes ». C'est-à-dire que la tête, lors des ablutions, tu ne vas pas la laver, mais tu vas seulement l'essuyer. Il n'est pas nécessaire de frotter tes cheveux, ni d'essayer que l'eau atteigne la peau de ton crâne. Ceci n'est pas demandé, mais il est seulement légiféré de passer tes mains mouillées sur ta tête. Donc, après avoir mouillé tes mains, tu vas passer tes deux mains mouillées sur ta tête en commençant par le sommet du front, là où les cheveux commencent généralement à pousser. Puis tu les fais aller jusqu'à la nuque, sans essuyer la nuque bien sûr, mais seulement la tête. Après cela, tu reviens à l'endroit par lequel tu as commencé et tu auras ainsi essuyé entièrement ta tête. Et il est obligatoire d'essuyer entièrement la tête. Il n'est pas suffisant d'en essuyer qu'une partie, comme en essuyant seulement l'avant ou l'arrière ou un des deux côtés. Il est impératif de passer ses deux mains sur l'intégralité de la tête. Après cela, il est légiféré d'essuyer également ses oreilles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, les oreilles font partie de la tête. Et ce hadith est rapporté par les imams At-Tirmidhi et Ibn Majah, et il a été authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Et les oreilles, tout comme la tête, elles ne doivent pas être lavées ni frottées, mais tu dois seulement les essuyer. Il n'est pas nécessaire de remouiller tes mains, mais après avoir essuyé ta tête, directement, tu entres ton index dans le conduit des oreilles en le faisant passer dedans, et avec tes pouces, tu essuies l'arrière des oreilles. Comme on a dit, il n'y a pas besoin de frotter, tu fais seulement un simple essuyage. Le quatrième pilier ou la quatrième obligation est de se laver les pieds jusqu'aux chevilles, comme le démontre la suite du verset de Sourate Al-Ma'ida, Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Les pieds sont donc les derniers membres à laver durant les ablutions. Et il est impératif de les laver entièrement, en lavant bien les talons, et en faisant parvenir l'eau entre les orteils, et en les lavant jusqu'aux chevilles incluses. Le cinquième pilier ou la cinquième obligation des ablutions est de faire cela dans l'ordre mentionné. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les ablutions dans le verset et il les a ordonnées dans un ordre particulier. Il est donc obligatoire de faire les ablutions dans l'ordre dans lequel elles sont mentionnées dans le verset. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait les ablutions que dans l'ordre mentionné dans le Coran, en lavant tout d'abord son visage, puis les deux mains jusqu'au coude, puis en essuyant la tête, puis les deux pieds, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques que l'on retrouve dans les recueils d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc celui qui ne fait pas ses ablutions dans l'ordre, qui commencerait par exemple par laver ses pieds, puis ensuite laverait son visage, puis ensuite ses mains, celui-ci, ses ablutions ne sont pas valides, même s'il lave tous les membres des ablutions. À partir du moment où il ne fait pas cela dans l'ordre, ces ablutions ne sont pas valides. Mais pour être valides, elles doivent être effectuées dans l'ordre mentionné dans le verset. Le sixième et dernier pilier consiste à faire cela sans interruption. C'est-à-dire que lors de tes ablutions, tu dois laver tes membres les uns après les autres, de manière successive, en ne retardant pas le lavage du membre suivant, de sorte à ce que le membre précédent ait déjà séché. La preuve à ce sujet et tout d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Il faisait les ablutions sans interruption. Également, dans un hadith rapporté par les imams Ahmed et Abu Daoud, rahimahumallahu ta'ala, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme qui priait alors qu'une partie du dessous de son pied, de la taille d'un dirham, de la taille d'une pièce, n'avait pas été touchée par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna alors de refaire les ablutions. Les gens de science ont dit que si le fait de faire les ablutions sans interruption n'était pas une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aura alors seulement ordonné d'aller laver cette partie de son pied, car les pieds sont le dernier membre lavé durant les ablutions. Mais étant donné qu'il lui a ordonné de refaire les ablutions, ceci nous indique qu'il est obligatoire de les faire sans interruption. Et lorsqu'on l'en dit sans interruption, comme on l'a expliqué, cela signifie qu'on ne retarde pas le lavage du membre suivant de sorte à ce que le précédent ait déjà séché. Mais si tu as besoin de t'interrompre un court instant, pour une raison ou pour une autre, et que tu n'as pas l'intention d'arrêter tes ablutions, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Comme on l'a vu dans le cours précédent avec l'exemple de celui qui répond brièvement au téléphone pour dire à la personne de le rappeler dans quelques minutes. Ou alors, tu as commencé tes ablutions, tu entends frapper à la porte, tu vas seulement ouvrir la porte, puis tu reprends tes ablutions. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Mais, à supposer que tu ailles à la porte avec l'intention de seulement l'ouvrir et de retourner faire les ablutions. Puis qu'une fois la porte ouverte, la personne qui entre te retient et que tu commences à discuter avec celle-ci. Dans ce cas-là, il y aura une longue interruption et tu devras alors recommencer les ablutions du début. Ceci concernait donc les piliers des ablutions, qui sont les actes sans lesquels les ablutions ne peuvent être valides. Passons maintenant à la question suivante, qui est la cinquième question concernant les règles des ablutions et la deuxième question que l'on voit aujourd'hui. Et celle-ci concerne les sunan des ablutions. Le mot sunan, en arabe, c'est le pluriel de sunnah. Et il désigne ici les choses recommandées, c'est-à-dire les choses dont l'auteur est récompensé s'il les fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le délaissement n'a pas d'incidence sur la validité des ablutions. C'est cela qui est visé par les sunan, qui sont les choses recommandées. Et on va voir ici neuf choses que les gens de science ont mentionnées. La première chose recommandée est la tasmiyah, qui est le fait de dire bismillah au début des ablutions. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Et ce hadith est rapporté par les imams Ahmad, Abu Daoud et d'autres, et il a été jugé bon par l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Et ici, une question se pose. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah, pourquoi dit-on que la tasmiyah est seulement recommandée? La réponse à ce sujet est que les gens de science ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Comme vous l'avez entendu, il a été jugé bon par l'imam Al-Albani. Mais avant lui, l'imam Ahmad ou Al-Hafidh al-Nawawi rahimahumallahu ta'ala l'ont jugé comme étant faible. Et l'imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala a dit: il n'y a rien d'authentique à ce sujet. Donc, étant donné qu'ils ont divergé sur l'authenticité du hadith, ils ont par conséquent divergé concernant le jugement de la tasmiyah, le jugement du fait de dire bismillah au début des ablutions. Certains parmi les gens de science ont dit: ceci est une condition. Et ils ont considéré les ablutions de celui qui ne dit pas bismillah comme étant invalides, même en cas d'oubli. C'est-à-dire que selon cet avis, celui qui oublierait de dire bismillah, alors il serait obligé de recommencer ses ablutions en disant bismillah et en reprenant du début. Car pour eux, dire bismillah est une condition. Le deuxième avis est que dire bismillah est une obligation. Et quelle est la différence entre l'obligation et la condition? La condition, elle désigne ce qui ne fait pas partie de l'acte et sans quoi l'acte ne peut pas être valide. Quant à l'obligation, il n'est pas permis de la délaisser volontairement, mais si on l'oublie, alors l'acte est valide. Donc c'est cela la différence entre ces deux avis. Ils ont donc dit que dire bismillah au début des ablutions est obligatoire, qu'on ne doit pas délaisser cela volontairement, mais que si on oublie, alors les ablutions sont valides et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Enfin, le troisième avis, qui est l'avis soutenu ici par les auteurs du livre, et que cela est recommandé. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et cela pour trois raisons. La première, comme on a dit, est que les gens de science ont divergé sur l'authenticité du hadith. Et, en supposant son authenticité, ils ont dit que cela signifie qu'il n'y a pas d'ablution complète pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Pourquoi? Car, ceci est la deuxième raison pour laquelle cela est seulement recommandé et non obligatoire, car la tasmiyah, elle n'est pas mentionnée dans les hadiths sur la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'exemple du hadith de Uthman et du hadith de Abdullah ibn Zayd, qui sont rapportés dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc, à partir du moment où elle n'est pas mentionnée dans ces hadiths, cela nous indique que ceci n'est pas une obligation. Donc, le sens du hadith est: il n'y a pas d'ablution, c'est-à-dire il n'y a pas d'ablution complète, parfaite, pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. C'est-à-dire que c'est recommandé, et qu'en faisant cela, tu parfais tes ablutions. Et la troisième raison pour laquelle ils ont dit que cela est recommandé est la recommandation générale de commencer les actes par la basmala. Ceci sont donc les trois avis des gens de science à ce sujet. Toutefois, Si on considère cette divergence et que le hadith a été jugé bon, il ne convient pas de délaisser la tasmiyah. Il ne convient pas de délaisser volontairement le fait de dire bismillah avant les ablutions. Ainsi, tu sors de la divergence et tu as au moins fait une chose qui est recommandée. Et si tu l'oublies, alors il n'y a pas de gêne, tes ablutions sont valides, insha'Allah ta'ala. La deuxième chose qui est recommandée durant les ablutions, c'est le siwak. Comme on l'a vu dans un cours précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque ablution. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Et on a déjà mentionné dans le cours sur le siwak que le mieux est d'y avoir recours avant le rinçage de la bouche, car l'objectif du siwak est de se purifier la bouche, donc on l'utilise avant le rinçage de la bouche. Et si tu as recours au siwak avant tes ablutions ou après tes ablutions, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, et tu auras ainsi mis en pratique cette sunna, car il n'y a rien de précis rapporté au sujet du moment où ceci doit avoir lieu. La troisième chose recommandée durant les ablutions est de laver au début les mains trois fois, c'est-à-dire les mains jusqu'aux poignets. Et ce lavage est recommandé. Il est différent du second lavage, comme on a dit, qui a lieu après le lavage du visage et qui inclut le lavage des mains jusqu'au coude, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Celui-ci est un lavage obligatoire qui fait partie des piliers des ablutions. Il a lieu après le visage. Quant à ce premier lavage par lequel tu commences tes ablutions, c'est un lavage qui est recommandé. C'est-à-dire que celui qui ne le fait pas, ses ablutions sont valides, inshallah ta'ala. Toutefois, il ne convient pas de délaisser ce lavage car il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques sur la description de ses ablutions. Et bien que ce lavage soit recommandé, il faut savoir qu'il est obligatoire à un moment. Et c'est pour celui qui se réveille, car il est mentionné dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains trois fois avant de les mettre dans le récipient, car il ne sait pas où sa main a dormi, c'est-à-dire où elle était durant son sommeil. C'est donc une obligation pour celui qui se réveille de laver ses mains à trois reprises avant les ablutions. La quatrième chose qui est recommandée est d'insister lors du rinçage de la bouche et du nez. On a vu que il faisait partie du lavage du visage le fait de se rincer la bouche et le nez lors des ablutions. Et il est recommandé d'insister sur cela, à l'exception d'un cas de figure qui est celui de la personne qui jeûne. En effet, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu es en état de jeûne. Et ce hadith est rapporté par les imams Abu Daoud et An-Nasa'i, et elle a été authentifiée par Al-Albani rahimahumullah ta'ala. La cinquième chose qui est recommandée lors des ablutions est de frotter ses membres, c'est-à-dire lors du lavage du visage que tu le frottes, lors du lavage des mains que tu les frottes, et ainsi de suite. À l'exception de la tête, comme on a dit, qui n'est pas un lavage mais un simple essuyage. Et le cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala a dit que ceci est recommandé lorsque la personne fait ses ablutions alors qu'elle a beaucoup d'eau et qu'elle a suffisamment d'eau pour bien verser de l'eau sur l'intégralité de ses membres. Mais que si l'on fait les ablutions avec peu d'eau, alors dans ce cas-là, le fait de frotter deviendra obligatoire car cela sera le seul moyen pour faire en sorte que l'eau atteigne l'intégralité des membres des ablutions. Et parmi les choses recommandées, il y a le fait que celui qui a une barbe à forte densité, qu'il passe ses doigts à l'intérieur de sa barbe afin d'y faire entrer l'eau. Quant à celui dont la barbe n'est pas dense, c'est-à-dire que l'on voit la peau de son visage à travers sa barbe car elle est légère, alors celui-ci, il devra impérativement faire en sorte que l'eau atteigne sa peau. La preuve à ce sujet et qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il faisait ses ablutions, il frottait ses avant-bras. Et également, il est rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam qu'il entrait la main sous son menton et faisait passer ses doigts à l'intérieur de sa barbe. La sixième chose recommandée durant les ablutions est de faire précéder la droite à la gauche, et ce, lors du lavage des mains et des pieds. En effet, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble de ses affaires. Il est donc recommandé lorsque tu fais tes ablutions, lors du lavage des mains et des pieds, de commencer par la droite. Et ceci n'est pas une obligation, c'est-à-dire que si la personne se trompe et lave sa main gauche avant sa main droite, ceci n'aura pas d'incidence sur la validité de ses ablutions, tant qu'elle respecte l'ordre des membres. Mais la sunna est ce qui est recommandé est de commencer par la droite. La septième chose recommandée durant les ablutions est de laver à trois reprises le visage, les mains et les pieds. Donc l'obligation lors des ablutions est de laver chaque membre une seule fois. Et il est recommandé de les laver à trois reprises, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une personne lave chacun de ses membres une seule fois, ses ablutions sont valides. Et le mieux est de laver chaque membre à trois reprises. Et il est permis également de les laver à deux reprises, car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait ses ablutions en lavant chaque membre une seule fois, en lavant chaque membre deux fois et en lavant chaque membre trois fois. Et fait donc partie de la sunna de faire cela de temps à autre. Et ceci concerne seulement, comme on a dit, les membres qui doivent être lavés. Le visage, y compris le rinçage de la bouche et du nez, les deux mains et les deux pieds. Quant à la tête, elle ne doit être essuyée qu'une seule fois, car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'ait essuyée plus d'une fois. Et il est recommandé en ce qui concerne le rinçage de la bouche et du nez de les faire à trois reprises avec seulement trois poignées d'eau. C'est-à-dire que tu prends de l'eau dans ta main droite en mettant une partie de l'eau dans ta bouche pour te rincer la bouche et le reste dans ton nez pour te rincer le nez. La huitième chose recommandée lors des ablutions est de prononcer après celle-ci l'invocation légiférée et qui est de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qui signifie « J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. » L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a personne parmi vous qui fait les ablutions et qui s'applique afin de les faire parfaitement, qui s'applique dans ses ablutions. Puis qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh » sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes et qu'il puisse y entrer par celle de son choix. Allahu Akbar. Vous voyez le mérite immense des ablutions. Ces ablutions que malheureusement beaucoup d'entre nous ne font que de manière mécanique, sans réfléchir à ce qu'ils font. Il sait qu'il doit faire les ablutions pour la prière, il les fait, sans penser à tout le mérite qu'il y a dans ces ablutions. Lorsque tu fais les ablutions, tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné ces ablutions. Lorsque tu fais ces ablutions, tu prends pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait les ablutions avant de prier. Également, tu le prends pour modèle dans ta manière de faire tes ablutions. Et si tu parfais tes ablutions, que tu t'appliques dans celles-ci, que tu ne les négliges pas, que tu penses à renouveler ton intention, de faire ces ablutions pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es en adoration lorsque tu fais les ablutions, puis que tu prononces cette invocation, cette parole qui nous est rapportée, alors les huit portes du paradis te sont ouvertes et tu pourras y entrer par celle de ton choix. Subhanallah. Tu vois donc ce mérite immense qu'il y a dans les ablutions. S'ajoute à cela le mérite qui sont rapportés dans d'autres hadiths, comme le fait que celui qui parfait ses ablutions, alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. Également, Uthman qui rapporte qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions, puis dire « Celui qui fait ses ablutions de cette manière, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et lave son visage, tout péché qu'il a commis avec ses yeux sort de son visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché vers lequel il a marché est effacé avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il termine purifié des péchés. Vous voyez à travers ces hadiths le mérite immense des ablutions. En plus de te purifier le corps, elles te purifient de tes péchés. Donc, ceci nous incite à nous appliquer lors des ablutions, afin de tirer profit de ces mérites et d'espérer cette récompense et cette purification de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les choses recommandées liées aux ablutions, il y a le fait de prier deux unités de prière surérogatoire après avoir fait les ablutions. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour dit à Bilal: ô Bilal, informe-moi de l'œuvre que tu as fait en islam et par laquelle tu as le plus d'espoir, c'est-à-dire celle dans laquelle tu espères le plus la récompense de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car j'ai entendu le son de tes pas devant moi au paradis. Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, informa donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, de jour comme de nuit, il les faisait suivre de ce qui lui était possible de prier. Et dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, Bilal a dit: je n'ai pas fait l'adhan sans faire après deux unités de prière. Et je n'ai pas été en état d'impureté sans faire mes ablutions, puis en accomplissant après cela deux unités de prière. Donc ceci nous prouve qu'il est recommandé pour le musulman de faire suivre ses ablutions par deux unités de prière surérogatoires, à chaque fois que tu fais les ablutions, afin de profiter de ce mérite, car ces deux unités que tu fais après les ablutions, elles sont aussi une cause d'entrée au paradis. On a donc terminé concernant les choses recommandées durant les ablutions. Il nous reste à voir trois questions qui concernent ce qui annule les ablutions et également ce qui nécessite les ablutions de manière obligatoire et de manière recommandée. Et ceci sera le sujet de notre prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.